Bienvenue sur Néo Travail, le podcast qui explore le futur du travail écoféministe. Nous repensons le rôle et la place des femmes dans la sphère professionnelle. Nous donnons la parole à des femmes qui travaillent et entreprennent en prenant soin des autres et de la planète.
Nous sommes Hélène et Laetitia, deux exploratrices écoféministes. Avec nos invités, on parle des luttes contre les discriminations et les inégalités, de comment travailler moins et mieux. Nous repensons le pouvoir et le leadership, le capitalisme et le patriarcat, et mettons en lumière les femmes qui construisent une société plus écologique, solidaire et inclusive. Bonne écoute!
Bonjour Laetitia!
Bonjour Laetitia et Hélène!
Bonjour Laetitia!
Eh bien Laetitia, merci beaucoup d'être là avec nous pour la seconde fois, puisque tu es déjà intervenue à notre micro sur différentes questions liées au travail. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec toi d'autres sujets et suite à la sortie toute récente d'un nouvel ouvrage. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, on va dire, on aurait bien aimé quand même que tu puisses te présenter ou te représenter, en tout cas, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le précédent épisode ou qui ne te connaissent pas encore. Et si tu pouvais aussi nous décrire rapidement quel est ton métier ou ton activité professionnelle aujourd'hui.
Oui, je m'appelle Laetitia Vito, je suis autrice et conférencière sur le futur du travail, c'est comme ça que je me présente dans la version courte. Je suis experte au lab de Welcome to the Jungle avec lequel je travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant sur tout un tas de sujets liés au travail, aux ressources humaines. Et puis j'ajoute des médias, différents médias, soit que je crée moi-même, soit que je rejoins. Notamment, j'ai rejoint un média qui parle aux femmes de 45 ans et plus, qui s'appelle Vive Média, qui a été lancé par Bayard. Et dans ce média, on parle beaucoup d'argent et d'empowerment au féminin. J'ai créé un podcast qui s'appelle Nouveau Départ. Je travaille avec une émission qui s'appelle Les Cafés Freelance, qui fait un point plus spécifique sur les travailleurs indépendants, sur les freelances. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes comme ça, mais tout a un rapport avec le travail. Et je viens de publier, comme tu l'as souligné, un livre qui s'appelle « En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail ».
Top, super. Bah écoute, merci pour cette petite présentation. Donc, tu travailles beaucoup aussi.
Oui, c'est tout le paradoxe de dire « en finir avec la productivité » et de devoir être productive pour en finir avec la productivité. C'est un paradoxe dont je ne suis pas sortie.
Exactement. Mais du coup, tu connais le sujet parce que tu as travaillé dessus, mais aussi parce que tu l'expérimentes certainement.
C'est ça.
Voilà. Et d'ailleurs, avant de rentrer vraiment dans le bouquin et les sujets que tu abordes pour justement vouloir en finir avec la productivité, on aimerait bien remettre un peu de contexte aussi autour de l'écriture de ce livre, parce que il y a forcément un contexte associé, et notamment par rapport à ton expérience allemande, puisque peut-être que les personnes ne le savent pas, mais tu vis en Allemagne, et donc tu as un point de vue peut-être particulier sur le fonctionnement de la société allemande et du travail peut-être d'ailleurs dans ce pays. Là, donc si tu pouvais peut-être nous contextualiser l'écriture de ce bouquin et en quoi peut-être ça l'a inspiré finalement.
Oui, c'est vrai que vivre une grande partie de la pandémie en Allemagne m'a ouvert les yeux sur des choses que j'avais peut-être pas, dont j'avais pas forcément pris conscience auparavant, même si c'est toujours vrai que quand on est mère d'enfants, on a des sujets de travail qui se posent immédiatement parce que la parentalité devient vite un empêcheur d'avancer dans sa carrière. Mais en Allemagne, c'était tellement marqué. Ce que j'ai observé, c'est une société qui était, comme toutes les sociétés, à l'arrêt, mais avec cette grosse différence qui est que l'école est restée fermée pendant plus d'une année parce que beaucoup, beaucoup des mères, deux tiers des mères allemandes travaillent à temps partiel. Et ce que je vis et observe, c'est une société qui dépend encore plus massivement du travail gratuit féminin. Et c'est assez paradoxal, c'est que les questions écologiques sont très liées, mais pas forcément de manière féministe en Allemagne. Donc, il y a une vision de la maternité qui est quasi sacralisée pour des raisons écolo. C'est-à-dire que les mères allemandes allaitent beaucoup, allaitent longtemps. Il y a toute cette idée vraiment de la nature avec un grand N. Voilà, quelque chose qui est de l'ordre du sacré et qui rejoint des considérations environnementales qui peuvent être par ailleurs très positives. Hein. L'Allemagne est le pays qui a inventé l'écologie politique. C'est un pays dans lequel on prétend laisser une place à la nature dans toutes les dimensions de la vie, à l'école, dans la ville. Enfin, on voit la place qui est faite à la nature, qui est vraiment très, très importante. Mais en même temps, les femmes en font les frais. Et les femmes en font les frais vraiment très fortement parce qu'il y a un écart de richesse, de revenus, d'activité rémunérée et valorisée qui est phénoménal, en particulier entre les mères et les non-mères. Et donc, il y a un pourcentage aussi de femmes allemandes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants qui est beaucoup plus élevé que dans les pays voisins. Et tout ça m'a fait... voir les choses sous un certain angle et voir en fait cet édifice d'une économie souvent vantée en France, enfin admirée en France, mais qui en fait repose sur une partie cachée, invisibilisée, qui est tout ce travail gratuit en grande partie féminin, ou le travail peu rémunéré, peu valorisé, qui est également féminin.
On a bien compris pourquoi, les raisons qui ont motivé cette écriture, et peut-être aussi un peu la colère, ou en tout cas le constat. Est-ce que tu peux nous dire, en France et puis en Allemagne, c'est peut-être aussi la même chose, qu'est-ce que c'est finalement la productivité, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, à quoi ça sert, pourquoi c'est une notion phare de l'économie encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à connaître les grands penseurs, Marx, etc. Mais aujourd'hui, comment on s'en sert encore de cet indicateur?
En fait, il est omniprésent. À l'origine, c'est un indicateur qui est scruté par les économistes parce que c'est un ratio, et c'est un ratio qui mesure l'efficacité d'un facteur de production. Par exemple, on peut mesurer l'efficacité d'une heure de travail ou bien d'une machine dans une usine. Donc, on isole le facteur de production et c'est un ratio qui mesure ce qui est produit sur la quantité de facteurs de production nécessaire à cette production. Et ça permet d'avoir, par exemple, un chiffre d'affaires par machine, une valeur produite par heure de travail investi, etc., etc. Et donc, de manière assez évidente, c'est un ratio qui est très important parce que quand on progresse en productivité, ça veut dire que soit on dégage du temps qui peut permettre de vivre mieux. C'est ce qui s'est passé au XXe siècle, où le temps de travail a été réduit considérablement, au point que d'ailleurs avant la guerre, l'économiste Keynes avait imaginé une société dans laquelle on travaillerait que 15 ou 20 heures par semaine, parce que les gains de productivité étaient très importants, donc on pouvait produire autant avec moins d'heures, avec moins de ressources. Et on le scrute aussi parce que c'est un facteur de progrès, un facteur de progrès social, parce qu'on peut aussi choisir de travailler le même nombre d'heures, mais de produire beaucoup plus de richesses et puis de les distribuer dans la société, de mieux les distribuer. Donc c'est pour ça que c'est, à juste titre, un ratio qui est scruté de manière, comme le lait sur le feu, comme un indicateur qui va nous donner des signes de santé d'une économie, de performance. Et puis, accessoirement, la productivité, au sens industriel, elle est écologique, parce que si on arrive à produire plus avec moins de ressources, en investissant moins de ressources, on est dans quelque chose qui est moins intensif en matières premières, en machines, en énergie, quel que soit le facteur de production qu'on isole, si on arrive à faire plus avec moins, à la base, c'est écologique. C'est quelque chose de positif. Mais, il y a un grand mais, la productivité en réalité est un indicateur qui mesure très très mal les choses. Et autant à l'époque industrielle, on arrivait à voir assez clairement que on arrive à mieux l'utiliser, on produit plus, ça a l'air d'être logique. De même que si un ouvrier sur une chaîne d'assemblage arrive à produire plus, ça a l'air assez logique. Mais le problème, c'est que dès qu'on s'éloigne des biens industriels, des biens standardisés, des matières premières, par exemple les tonnes de blé ramassées ou des choses comme ça, qui sont des commodités interchangeables, Dès qu'on s'éloigne de ça, en fait, c'est le flou total, c'est le règne de l'arbitraire. Et en fait, c'est un indicateur qui sert à perpétuer des inégalités dans le partage des richesses. Un exemple, dans le monde des services, et en particulier des services à la personne, une partie n'est pas dans la sphère marchande, en particulier les services publics. Et donc, l'indicateur de productivité est mesuré sur la base de ce que l'on paye, finalement, de la masse salariale. Si bien qu'on arrive à quelque chose d'assez tautologique, qui est qu'une infirmière produit, entre guillemets, son propre salaire, et comme son salaire est faible, eh bien elle produit peu, donc elle est peu productive, et donc ça sert à justifier finalement sa faible paye. Donc c'est quelque chose de tautologique, la faible paye justifie la faible paye, et donc on ne sort pas de cette dévalorisation. Un autre exemple, peut-être à prendre dans le monde de l'entreprise, on a des services de support, RH, comptabilité, etc., ou même le ménage qui est fait dans les bureaux, qui va être compté toujours comme une charge, comme un poids et comme une activité réputée moins productive, alors qu'en fait, elle est indispensable à tout le reste de l'organisation. Et puis, un dernier exemple, dans le monde créatif, artistique, le monde des idées, en fait, on est souvent dans des productions qui dépendent de l'échange de l'information, de l'échange des idées, et dans des productions qui sont quand même très collectives. Et là aussi, la productivité va être quelque chose de très arbitraire, parce qu'on va reconnaître un mérite productif prépondérant à des individus qui sont placés plus haut dans la hiérarchie. Typiquement, si vous avez le pouvoir, vous vous attribuez la paternité, éventuellement la maternité d'une idée, et du coup, vous allez récolter ce mérite productif, alors que, en réalité, c'est la qualité des liens et du partage des informations qui permet de produire la valeur. Et donc, l'indicateur ignore les liens entre les individus, ignore la dimension collective et la qualité des infrastructures qui permet une production de qualité. Elle ignore les externalités, donc toutes les conséquences non voulues d'une activité, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le lien social. Et donc, c'est un indicateur qui est en grande partie aveugle à tout ce qui est essentiel dans notre économie. Et c'est l'objet de la critique que je fais dans cet ouvrage.
Mais alors, du coup, on a envie de se poser la question, mais pourquoi cet indicateur est encore utilisé aujourd'hui ? Alors, j'ai ma petite idée. Tu avances dans le livre que la productivité est une notion patriarcale, donc elle a été pensée, fondée par les fondateurs de notre économie classique, enfin Marx, Smith, etc. à l'époque. Quelle est l'influence de leur pensée aujourd'hui et pourquoi du coup tout simplement cette notion, ce concept de productivité est une notion patriarcale?
Alors, excellente question. Dans le livre, je reviens à celui que l'on considère aujourd'hui comme le premier économiste de l'histoire, qui était aussi un philosophe, qui est Adam Smith, qui, dans l'Écosse de ce tout début de la première révolution industrielle britannique, a mis au point un certain nombre de concepts qui sont toujours pertinents aujourd'hui, notamment la fameuse main invisible du marché. C'est le premier à avoir théorisé cette idée, ensuite reprise par tous les économistes libéraux, que c'est en poursuivant son intérêt égoïste que l'on fait le mieux marcher, la magie, voilà, la main invisible, la magie du marché. On lui doit l'idée ou le concept de la division du travail, qui va ensuite être mise en pratique au 19e puis au 20e siècle, notamment dans l'industrie automobile, avec cette idée que en divisant les tâches de manière scientifique, de manière très planifiée, et en segmentant les tâches le plus possible, chacun se spécialise dans quelque chose de très pointu ou de très spécifique, et puis le processus dans sa globalité est si bien pensé qu'en fait, on peut produire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, derrière ça, il y a évidemment déjà les germes de l'idée de la productivité. Donc Smith, il est complètement dans cet arsenal, où il a mis au point une partie de cet arsenal qui va servir à toute la science économique, qui deviendra ensuite une discipline à part entière. Et ce que j'illustre dans le livre, c'est le fait qu'il n'a pas du tout intégré un point de vue féminin dans l'économie. Et finalement, il a imprimé une définition de l'économie qui est très masculine, très patriarcale. J'en donne l'illustration par le fait qu'il illustre la magie de la main invisible par la métaphore du dîner. Hein, le dîner, c'est quelque chose d'incroyable, c'est magique. Tout d'un coup, grâce à l'égoïsme du boucher, l'égoïsme du brasseur et l'égoïsme du boulanger et puis du meunier, on a la magie d'un dîner où on a du pain, de la bière, etc. C'est une belle métaphore parce que c'est vrai qu'on retrouve dans l'alimentation, en plus c'est quelque chose de très visible, en effet tous les corps de métier qui comptent pour nous et qu'on peut goûter au sens, ouais, au sens sensuel du terme. Mais Smith n'intègre absolument pas la dernière étape, et pas des moindres, qui est celle de la préparation de ce dîner. Il y a quelqu'un qui a fait les courses, hein, qui a acheté le pain, la bière, etc. Quelqu'un qui a préparé ses aliments, les a fait cuire, les a découpés, les a servis sur une table, a ensuite fait la vaisselle, nettoyé, etc., etc. Et cette personne, c'est sa mère, puisque Adam Smith était un vieux garçon, il était servi par sa mère. Et cette étape-là n'est absolument pas présente dans son raisonnement. Comme si cela n'existait pas, comme si cela ne faisait pas partie de l'économie et comme si, en fait, il mangeait le pain, la viande, etc. sans aucune préparation, ce qui est complètement sidérant. Et petite parenthèse, fait intéressant, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas du tout dans la sphère marchande, cette préparation-là, quoique il existait quand même quelques auberges où on pouvait aller manger des plats préparés. Mais toutes ces étapes, en fait, au XXe siècle, sont entrées dans la sphère marchande et font l'objet ensuite d'échanges sur un marché. Donc, c'est assez drôle qu'il ne l'ait pas vu, parce que c'est quand même bien de l'économie. Et puis Smith, ensuite, cet angle mort, cet oubli de ce qui se passe dans le foyer, dans ce qui se passe à domicile, en fait, ça continue avec tous les autres grands penseurs de l'économie émergente. Et puis, je prends une autre grande figure quelques décennies plus tard, qui est celle de Marx. On pourrait penser que Marx et Smith n'ont rien à voir. Pourtant, ce sont deux grands penseurs de l'économie dite classique. Et puis, en cela, ils sont bien d'accord, c'est-à-dire qu'ils ignorent, ils ne regardent pas, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le foyer, comme si l'économie s'arrêtait à la porte du foyer et ce qui se passe à l'intérieur ne compte pas. Et l'héritage qui est celui de Smith et de Marx, c'est qu'il y aurait d'un côté un travail dit productif qui fait l'objet d'un échange marchand. Et cet échange, ou en tout cas ce travail-là, productif, il couvre, c'est-à-dire il paye le travail gratuit, non compté, d'une autre ou de plusieurs autres personnes dans le foyer. Évidemment, ça pose des problèmes dès l'époque industrielle, parce qu'en réalité, il y avait des ouvrières, des femmes, qui travaillaient en étant beaucoup moins payées, parce qu'on supposait que c'était un salaire d'appoint et que cela devait compléter un autre revenu. Il y avait des foyers dans lesquels il n'y a pas cette formation-là d'une personne dédiée à cela. Enfin, il y avait tout un tas de raisons déjà à cette époque-là pour la remettre en question. Mais le pire, c'est que cet héritage-là, en fait, il nous poursuit encore aujourd'hui avec cette idée qu'il y a toujours un revenu masculin qui est censé couvrir plus ou moins un revenu plus faible ou un revenu non existant de quelqu'un d'autre dans le foyer. On y est encore. Cette notion de salaire d'appoint, l'idée qu'un salaire dans un couple hétérosexuel, un salaire féminin, finalement, on n'a pas besoin d'être aussi élevé, hein, parce qu'il complète, il est un appoint à un salaire qui serait plus important. On a beau ne plus, il n'y a plus de personnalité politique qui dit cela, il n'y a plus personne qui le défend, mais la réalité de l'économie, c'est encore celle-là. Dans 75% des couples hétéro, c'est l'homme qui gagne le plus. Dans certains métiers comme l'éducation nationale, comme les métiers du soin, les métiers du care, on a des métiers qui sont dévalorisés et qui ont pu être dévalorisés parce que c'est soutenu par cette idée implicite du salaire d'appoint. C'est-à-dire que c'est essentiellement des femmes, elles n'ont pas besoin de gagner plus parce qu'elles ont quelqu'un d'autre qui peut les soutenir. Donc on n'en sort pas. Et la discipline de l'économie, elle est restée masculine tout du long. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des figures féminines qui ont fait parler d'elles, des Mariana Mazzucato, Carlota Perez, Kate Raworth, enfin beaucoup de figures, mais elles sont toutes dans des courants un peu hétérodoxes, qui remettent en question justement les grands acquis et les grands concepts hérités des économistes classiques. Et puis surtout, ça reste une discipline en fait quand même très, très, très masculine. Et donc, cet angle mort est perpétué parce qu'il ne voit pas. Plein de choses, il ne voit pas. Et ce n'est pas un problème spécifiquement masculin, c'est un problème d'absence de diversité. Quand vous avez un seul point de vue sur les choses, il y aura toujours un angle mort parce que vous n'avez pas le point de vue des autres. C'est vrai pour les hommes et les femmes, c'est vrai aussi pour des zones géographiques, pour des classes sociales, pour des classes d'âge. Quand vous n'avez pas cette diversité, en fait, il vous manque un gros bout d'information, il vous manque un regard sur le monde qui fait qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, même en étant de bonne volonté et même en n'étant pas un monstre.
C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que sur la question pourquoi on utilise encore cet indicateur, parce que quand on lit le livre, c'est vrai qu'on se dit « bon, bah, ok, c'est fini, il est complètement biaisé, on ne devrait plus l'utiliser », mais on comprend qu'en fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe, de la réalité, quoi.
Exactement. Après, il y a aussi des intérêts qui sont défendus par des lobbies, les intérêts notamment dans le monde industriel qui continuent d'avoir une voix prépondérante dans le monde de l'économie quand on parle de travail, souvent un homme politique va avoir envie d'aller visiter une usine, d'aller voir des ouvriers, parce que le vrai travail, c'est ça. Comme si dans notre imaginaire, on associait toujours ça, le travail viril d'un homme en priorité, et puis surtout quelque chose qui est tangible, comme une production qu'on peut toucher, qu'on peut valoriser. Et donc, il y a toujours ce poids prépondérant du secteur industriel, alors qu'en réalité, il correspond à très peu d'emplois. Hein. C'est une petite dizaine de pourcents des travailleurs qui travaillent dans le secteur industriel. Mais on continue de le valoriser et on continue de le présenter comme le plus productif. Et donc, finalement, cette définition ou cet indicateur de la productivité permet de défendre une certaine répartition des richesses. Et donc, ceux qui sont gagnants aujourd'hui n'ont pas intérêt à changer les choses. Ceux qui aujourd'hui sont dans des productions polluantes et ont un indicateur qui semble les valoriser comme étant des activités hyper productives, donc hyper créatrices de richesses, elles n'ont pas intérêt, ces activités-là, ces acteurs-là, n'ont pas intérêt à ce qu'on mesure les choses autrement, parce que si on mesurait le coût réel des externalités et le coût réel du travail gratuit qui est nécessaire pour soutenir cette activité artificiellement, et ben en fait, elle serait beaucoup moins productive, elle serait beaucoup moins rentable. Donc, il y a aussi des intérêts en place parce que c'est un indicateur qui maintient une certaine répartition inégalitaire des richesses, et ceux qui sont aujourd'hui gagnants n'ont pas intérêt à ce que ça change.
Ouais, donc on comprend bien effectivement que cette notion patriarcale, elle n'est pas là depuis hier. Ça commence à traîner, cette histoire. Sur la quatrième de couverture de ton livre, tu décris en tout cas la productivité comme étant une notion donc patriarcale, on vient d'en parler, mais aussi écocide, qu'il est urgent de déconstruire. Donc effectivement, on partage ce point de vue. On aurait bien aimé en savoir plus sur cette notion d'écocide, en fait. Enfin, parce que nous, on le comprend au niveau de la destruction de la planète, de l'environnement, l'exploitation des ressources. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que toi, t'entends par là, et en quoi la productivité a aussi un impact finalement négatif sur la nature ?
Oui, alors je le disais, comme il y a une survalorisation de l'activité industrielle et puis des biens tangibles, une certaine vision de la valeur et de la production, l'indicateur, d'une certaine manière, privilégie tout ce qui est intensif en ressources et tout ce qui est construction, production de quelque chose de nouveau au détriment de tout ce qui est entretien, soins, recyclage, isolation, etc. Enfin, on a cette espèce de dualité entre des activités, voilà, la production et la reproduction. Et la productivité valorise ce qui est de l'ordre de la production, ce qui ajoute quelque chose et ce qui est intensif en ressources, et dévalorise tout ce qui est de l'ordre du soin, de la transmission, de l'entretien, de la rénovation, etc. Tout ce qui n'ajoute pas quelque chose, tout ce qui reproduit, tout ce qui entretient. Et là, évidemment, on a deux visions comme ça, de pôles qu'on associe culturellement, historiquement, l'un plus au masculin, l'autre plus au féminin. Donc c'est là où ça rejoint, c'est là où, disons, le cœur est écoféministe, parce que ce qui est au pôle le plus polluant, c'est un imaginaire qu'on associe au masculin, alors que de l'autre côté, on a quelque chose qu'on associe au féminin. Et puis la deuxième raison, en fait, c'est que je le disais tout à l'heure à propos des externalités. Donc c'est un concept économique assez intéressant qui dit que en fait, la productivité, comme le produit intérieur brut, le PIB, qui est un indicateur qui est très proche hein, dans sa conception de l'économie de la productivité, ignore toutes les conséquences non voulues d'une activité sur la société, la planète, la ville, la nature environnante et la qualité des liens, le bien-être des individus qui dépendent de cette activité. En fait, en gros, tout ce qui est essentiel, finalement, la santé des gens, la santé de la planète, mais tout ça, l'indicateur s'en fiche complètement. Et comme il s'en fiche complètement, il se fiche, par exemple, de savoir que la création de telle activité a des conséquences délétères sur la qualité de l'air et de l'eau dans l'environnement, eh bien du coup, en fait, il est boosté artificiellement par le fait d'ignorer ces externalités négatives. Et dans le champ de l'environnement, enfin dans le domaine de l'environnement et de la défense de l'environnement, il y a une réflexion déjà très longue et très poussée hein, sur la critique des indicateurs comme le PIB. Exactement avec cette idée-là, c'est-à-dire que dès les années 70, il y a des voix qui se sont élevées pour dire le PIB, il y a un gros problème, ça augmente en fait, ça semble augmenter au fur et à mesure qu'on détruit la planète. Et donc, dès les années 70, il y a des économistes, des chercheurs, des penseurs qui ont dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse mesurer la croissance économique autrement, en ajustant le PIB à la soutenabilité ou non-soutenabilité des activités mesurées. Depuis les années 70, on a comme ça à chaque fois des moments hein, clés de l'histoire. Par exemple, en France, à l'époque où Nicolas Sarkozy était président, il y a eu un rapport qui avait été commandé à l'économiste Joseph Stiglitz, c'était en 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. Et c'était une commission qui visait justement à mieux mesurer les choses. Je ne sais plus comment s'appelait cette commission sur la mesure de l'économie, quelque chose comme ça. Et ils sont penchés justement sur les manières de mesurer les choses de manière plus collective, d'intégrer les externalités, d'élaborer des nouveaux indicateurs de richesse. Et force est de constater que plus de 10 ans après, en fait, ça n'a rien donné. Il n'en reste absolument rien. Il y a bien des alternatives au PIB qui existent. C'est-à-dire qu'on a créé des tas d'indices, d'indicateurs. Il y a des indices de santé, il y a des indices de développement humain. Ça, c'était le programme des Nations Unies qui avait créé cet indicateur, l'IDH. Il y a des indices de bien-être, il y a des empreintes écologiques, il y a des indicateurs qui mesurent l'empreinte carbone d'une activité. Il y a énormément de... En fait, il y a un arsenal conceptuel très développé pour offrir des alternatives, mais ces alternatives sont toujours ignorées par les économistes orthodoxes et par les décideurs publics quand il s'agit, par exemple, de taxer, quand il s'agit de décider du budget, quand il s'agit de, en fait, prendre toutes les grandes décisions qui ont un impact sur nos vies. Donc, ça rend un peu presque pessimiste parce que le fait de voir que, finalement, il ne suffit pas des idées ou il ne suffit pas de proposer des indicateurs du moment que tout un système économico-politique repose sur un édifice de mesure des choses qui sert des intérêts bien compris.
Oui, effectivement, c'est pas très optimiste de faire ce constat-là. Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que donc la productivité, c'est un indicateur qui se fiche complètement de l'urgence climatique. D'ailleurs, on est en juillet 2022 et on connaît une période de canicule et c'est un des signaux nombreux de cette fameuse urgence climatique qu'on connaît. Tu évoques des alternatives qui sont ignorées. Est-ce que au niveau de l'économie, il y a d'autres choses à envisager également. Par exemple, enfin, on constate aussi que là, voilà, la course à la croissance, l'innovation telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas, ça pose problème pour des questions environnementales, exploitation des ressources. Est-ce qu'il faut envisager la décroissance, une croissance verte, le développement durable? Est-ce qu'il faut envisager aussi une autre façon de faire de l'économie pour pas du coup détruire la planète et au passage du coup les êtres vivants qui y vivent?
Indéniablement, une autre vision de l'économie doit amener à produire autrement, pas forcément. Alors, la question du plus ou moins, la question de la décroissance, elle est toujours. Il y a des écoles de pensée qui ont l'air de s'opposer radicalement, et puis finalement. Dans le mouvement de pensée pour la décroissance, on retrouve énormément de similarités avec la croissance verte, avec tous les grands courants que tu as cités, finalement se retrouvent sur cette idée qu'on devrait valoriser le lien social, valoriser le soin, valoriser l'entretien. Et c'est pas très très différent de ce que je dis, même si moi je m'approprie pas l'étiquette décroissance. Je dis une croissance qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici, en fait. Donc, voilà, après, il y a des gens qui sont très, très, comment dire, très tranchés sur cette question de la décroissance. Moi, je ne le suis pas forcément. Je me dis que si déjà on arrivait à produire autrement, autre chose, à empêcher un certain nombre de la destruction qui a lieu, on pourrait déjà aller très loin. Mais ce que m'inspire ta question à propos de la chaleur et de la productivité, à propos de cette canicule monstrueuse, c'est que ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai vu deux types de réactions qui, en lien avec la question de la productivité. La première qui m'a vraiment choquée, c'est tous les titres d'articles qui disent « Ah, la canicule nous rend beaucoup moins productifs. On a le cerveau en bouillie, on est en train de fondre, on n'arrive plus bien à travailler. » Comme si, voilà, de toute façon, l'objectif de toute vie, de toute activité, c'était de continuer à produire. Et donc, on ne regarde pas la planète pour elle-même ou le climat pour lui-même ou notre bien-être pour lui-même, mais que à l'aune de son impact sur la productivité. Comme si la productivité est une sorte de dieu devant lequel on va prier. Tout est au service de la productivité, ce qui est complètement absurde, puisque la productivité, par définition, en fait, est au service de quelque chose. C'est l'inverse, en fait. On a complètement inversé les choses. Et c'est là où la productivité est devenue une espèce d'injonction omniprésente et permanente, comme une raison d'être, une raison de vivre, et qui vient s'immiscer dans plein de dimensions de notre vie. On dort pour être productif, on ajuste son alimentation pour être productif, on rend ses loisirs productifs, etc., au point que c'est partout, que ça ne veut plus rien dire, évidemment, mais que c'est surtout absolument une espèce d'injonction en permanence dans toutes les dimensions de sa vie. Et puis alors, deuxième type de réaction que j'ai pu observer, évidemment, c'était la réaction d'être tétanisé et de se dire, en fait, je suis triste. J'ai vu ça plusieurs posts sur les réseaux sociaux de gens qui disaient je suis triste, en fait. Les Anglais en particulier, qui ont connu en juillet 2022 les températures les plus élevées de leur histoire, avec voilà, un 41 quelque chose enregistré à Londres pour la première fois, et qui disent... En fait, voilà, je suis triste, je suis en deuil. Je suis en deuil parce que toute la manière dont j'ai appréhendé l'économie jusqu'ici me semble tellement en décalage avec la réalité de ce que je vis que ça vient invalider, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, c'est un deuil que je vis parce que je dois faire le deuil de tout le système dans lequel j'opère, en fait. Et cette deuxième manière de voir les choses, en fait, elle est extrêmement minoritaire. Elle est extrêmement minoritaire. Il n'y a pas tant de gens qui sont en deuil face à ce qu'on observe en juillet 2022, que ce soit alors un petit peu si on habite dans le sud de la France et qu'on observe les incendies, mais sinon, plus globalement, on est toujours dans une instrumentalisation de notre bien-être, de la planète, de nos vies, de notre santé, de la santé de la planète, une instrumentalisation au service de la production.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant là, quand tu dis que normalement la productivité est au service de quelque chose et que là finalement en fait on est tous toutes et tous aliénés, quelque part, soumis à cette injonction de la productivité. C'est vrai que c'est assez inquiétant de le penser comme ça. Et alors, y a un autre point qu'on voulait aborder avec toi. En fait, tu évoques dans le livre aussi que l'ADN de la productivité, elle est entre autres constituée du coup du travail gratuit des femmes notamment et de ce mépris donc de l'environnement. C'est ce que le mouvement écoféministe d'ailleurs évoque, hein, ce lien entre l'exploitation de la nature et le patriarcat, et notamment les origines communes, hein, finalement, de ces discriminations-là, donc discrimination envers les femmes et discrimination envers la nature. On parle souvent de cette double exploitation. Quel est, toi, ton avis sur le sujet et, du coup, sur cette notion, ce mouvement de l'écoféminisme, puisque tu l'évoques un petit peu dans le livre?
Oui. Oui, c'est un mouvement qui m'a intéressée très tôt quand j'ai fait des lectures de Silvia Federici. Donc avant la sortie du livre de Mona Chollet, j'avais lu ça avant. Donc c'était marrant après de voir l'énorme succès du livre Sorcière de Mona Chollet qui rendait énormément hommage à Caliban et la sorcière de Silvia Federici, et c'était une révélation, cette lecture. C'était une révélation incroyable, cette lecture néo-marxiste féministe de l'histoire, qui montre comment, en fait, structurellement, on a une exploitation du féminin et des populations colonisées, puisqu'elle fait un parallèle entre les peuples asservis que l'on a colonisés et que les périodes les plus misogynes de l'histoire ont vraiment été soutenues par ces périodes de forte colonisation et d'asservissement des peuples, des terres, etc. Et donc cet enrichissement structurel qui a été celui des grandes puissances coloniales européennes s'est fait sur le dos des peuples colonisés, des peuples asservis, et sur le dos des femmes que l'on a, les uns comme les autres, associés dans l'imaginaire à la nature avec un grand N. Et on a opposé cette soi-disant nature avec la force culturelle masculine qui, elle, produit. Donc, toujours cette dichotomie très basique et très, très aliénante, en fait, entre la nature et la culture, la production et la reproduction, le masculin et le féminin. Et donc ce livre était une grande révélation, et à ce titre, je pense que je dois quelque chose à des penseuses écoféministes. Pour autant, il y a aussi une partie de ce que j'associe à l'écoféminisme qui m'a parfois donné un certain malaise, notamment une sorte d'essentialisation, en fait. Il y aurait, voilà, le principe féminin, le yin, qui serait, le yin pour prendre le concept chinois, qui serait autre, qui serait radicalement différente et qu'il s'agit de défendre dans son altérité. Et en fait, j'ai, moi, un fond universaliste français très, très, très fort qui me dit, mais oui, mais en fait, non, c'est pas de la nature, c'est du culturel, en fait. Moi, je suis très, très, on ne naît pas femme, on le devient. C'est la première lecture féministe de ma vie, c'est Simone de Beauvoir, et ça date un peu, en effet, hein, c'est un vieux livre, mais pour moi, ça reste un des grands monuments de ce qui m'a fait féministe, ce qui m'a rendue féministe. Et donc, je mets toujours un peu en opposition une vision comme ça qui serait un peu essentialiste, et qui ne s'intéresse pas trop aux facteurs culturels et aux facteurs sociologiques de différenciation entre les femmes et les hommes, et puis une vision qui est plus universaliste, plus culturelle, plus sociologique, qui ne se revendique pas écoféministe. Donc voilà, ceci étant dit, Federici est parfois reconnue comme une écoféministe ou comme l'une des premières, et je me reconnais totalement dans ce qu'elle écrit, donc je pense que l'étiquette ne me dérange pas tant que ça, parce que je pense qu'elle est finalement assez riche et ouverte à des formes de féminisme différents, et puis pas forcément dans une vision à l'allemande, très essentialisatrice du féminin. Et là aussi, c'est ma colère vis-à-vis des Allemands qui me fait être un peu en rejet de ça. Les Allemandes, elles allaitent pendant une année. L'idée, c'est que la maternité, fondamentalement, ça n'a rien à voir avec la paternité. Un enfant a besoin de sa mère. C'est très lié au corps aussi. Donc, le corps maternel, enfin, ce qui se passe pendant la grossesse, c'est tellement, tellement sacralisé que du coup, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et puis, finalement, c'est aussi un accomplissement naturel et un accomplissement de femme très fort que d'avoir un enfant. Et ça, cette vision-là, elle me dérange beaucoup parce que elle provoque des inégalités économiques énormes, elle s'accompagne d'une aliénation immense des femmes, et notamment des femmes allemandes, et elle vient se heurter à l'idée d'une liberté, en fait, d'une liberté, d'un choix. Donc ça me... Voilà, c'est le seul bémol que je dirais par rapport à une certaine vision de l'écoféminisme.
Alors on va attaquer la fin de ce podcast, et on avait une petite question sur un peu la partie, on va dire... solution entre guillemets. Alors on a parlé d'écoféminisme, c'est pas pour rien, bon, c'est un peu le cœur de notre podcast, et dans le livre tu dis le parallèle entre féminisme et écologie peut rendre le monde du travail et le système économique plus vertueux. Voilà, est-ce que toi tu as des exemples de ce qui pourrait être fait, mis en avant en termes d'indicateurs pour remplacer la productivité ou d'action à mettre en place? Est-ce qu'il y aurait des choses qui, selon toi, pourraient être faites?
Alors oui, à tous les niveaux, on peut les faire se rejoindre, surtout que, comme vous le disiez toutes les deux au début de ou avant le podcast, hein, vous disiez que c'est souvent, il y a des gens qui s'intéressaient à l'écologie, d'autres au féminisme, mais pas tant de gens qui s'intéressent aux deux. Et quand on parle de transition ou transformation dans l'entreprise, dans le travail, souvent on s'intéresse à l'un ou à l'autre et pas aux deux. Mais c'est un avantage, puisqu'en fait, ça décuple. Et si on part du principe que les gens qui ont à cœur d'accompagner une transition écologique, eh ben en fait, ça peut servir à la cause des femmes, finalement, ça peut être un avantage, ça peut être un atout, parce qu'on peut se servir de l'un pour servir l'autre. Enfin, on peut se servir d'une cause pour faire avancer l'autre. Donc, il y a plein d'exemples, il y a au moins trois niveaux d'exemples qu'on peut utiliser, celui de... la ville ou la commune ou la région, et puis de la puissance publique, celui de l'État, celui de l'entreprise et celui de l'individu. Donc chaque niveau, on peut trouver un exemple. Je ne sais pas si on a le temps de prendre un exemple dans chaque, mais par exemple dans l'entreprise, le fait de changer le mode d'évaluation de la performance en la basant bien davantage sur le travail collectif, sur la valorisation de l'intelligence collective, le fait de n'avoir, par exemple, plus de primes individuelles dans les équipes de vente, le fait de valoriser davantage tout ce qui relève du support et d'en comprendre le lien direct avec les activités réputées productives, ça permet d'avoir un meilleur partage des richesses. Et derrière ce meilleur partage des richesses, on a aussi une meilleure utilisation des ressources qui est fondamentalement plus écologique. Moins nocive, moins écocide. À l'échelle des villes, on a énormément de réflexions sur l'environnement, notamment toutes les villes qui ont élu récemment des maires avec l'étiquette verte et qui mêlent les considérations environnementales avec, par exemple, le principe d'égaconditionnalité, le fait de dire que les infrastructures dans lesquelles on investit, les ressources que l'on dépense en tant que collectivité doivent servir autant à tout le monde. Et donc, il y a des moyens de le mesurer. Si on mesure tel investissement qui a été fait, est-ce qu'il a profité à 70%, à 75%, à 80% à des hommes, ou est-ce qu'on est plutôt sur du 50-50? Et ce qui est intéressant, alors il n'y a pas tant de chiffres et d'indicateurs pour le prouver, mais c'est une intuition, c'est que souvent, quand on respecte le principe de l'égaconditionnalité, on a moins les grands projets pharaoniques de type énorme stade ultra polluant, des projets d'infrastructures qui, on va dire, flattent l'ego de certaines personnalités. Parce que tout ce qui est ce type de projet, en général, a tendance à être assez peu vertueux du point de vue de l'égaconditionnalité. En gros, c'est plus des trucs de mecs. Donc, si on arrive à respecter ce principe d'égaconditionnalité, c'est-à-dire le fait que un investissement va servir de manière à peu près égale et juste toute la population, la population dans sa totalité, et ben on fait avancer aussi des principes qui peuvent aller dans le sens d'une transition écologique. Donc c'est de l'ordre de l'intuition, là j'ai pas de preuves tangibles ou d'études très fournies là-dessus, mais on le sait que par exemple en termes d'utilisation de l'espace, les activités qui servent le plus les hommes sont plus consommatrices d'espace, sont plus consommatrices de mètres carrés. Donc il y a plein de choses comme ça, de petits indices qui peuvent nous aider à aller dans ce sens-là. Et puis je crois qu'il n'y a plus trop le temps pour d'autres exemples, mais il y a des exemples évidemment à l'échelle de l'État, notamment sur la question de la fiscalité. On peut avoir une fiscalité plus féministe qui rejoint aussi une fiscalité plus vertueuse du point de vue de l'environnement.
Super, merci. Et effectivement, pour rebondir sur ce qui peut être fait au niveau des villes, un des derniers podcasts qu'on a enregistré avec Inès de Parizeau était sur les villes genrées et comment effectivement on peut, elle en tant que designer urbain, pour repenser la ville de façon plus égalitaire, féministe, inclusive et écologique aussi. Effectivement, il y a ces considérations-là, à Lyon notamment, où on est, parce qu'on est dans une ville, on est une ville écolo depuis peu. Donc voilà, et ben, écoute, merci beaucoup Laetitia. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on aurait beaucoup d'autres questions, mais en tout cas, je pense qu'on a fait, quand même le tour de ce qu'on voulait voir. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé une seconde fois.
Merci beaucoup à toutes deux. C'était un angle très différent de la première fois, donc c'était un plaisir.
Et génial, on mettra aussi le lien vers ton livre, évidemment. Merci et à bientôt du coup.
Merci Laetitia, à bientôt.
À bientôt.
Ce que je retiens de mon côté sur notre échange avec Laetitia Vito et toi Hélène, c'est d'une part que cet indicateur, la productivité, perpétue les inégalités aujourd'hui, essentiellement les inégalités hommes-femmes, dont on a beaucoup parlé. On a pris par exemple le travail du soin, le travail du care, dans sa globalité, donc tout ce qui est effectivement soin de la personne, soin à autrui, soin également à l'environnement. Ce travail qui est en grande partie invisibilisé l'est du fait parce que là, il n'est pas pris en compte dans le calcul de la productivité du PIB et sa productivité est également très mal mesurée, on ne sait pas la mesurer actuellement. À la question mais pourquoi cet indicateur est-il encore utilisé au vu de toutes ces imperfections, de tous ces angles morts, Laetitia Vito nous répond « car les hommes au pouvoir n'ont pas intérêt à le modifier ». Et j'ai trouvé ça très juste et très pertinent dans le sens où cela permet de comprendre qu'on est encore malheureusement dans une société de privilèges aujourd'hui où la plupart des personnes qui sont au pouvoir sont des hommes. Il y a un ordre établi des choses et ces hommes-là ne veulent pas le modifier car cela les desservirait. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est un autre travers de la productivité. On en a parlé rapidement, c'est l'injonction à être toujours plus productif dans son travail, dans sa maison, à la maison, dans sa vie quotidienne. Et c'est vrai qu'on attend, on le voit pas souvent. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que cette injonction s'est immiscée dans tous les pans de notre vie. Ça peut faire peur d'ailleurs, c'est assez vertigineux et je trouve que c'est intéressant de prendre un peu de recul et de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans ma vie de tous les jours pour peut-être relâcher un peu la pression que je me mets sur moi-même, peut-être travailler moins mais mieux, faire en tout cas, essayer d'être moins productif parce que non, ce n'est pas une fin en soi que d'être toujours productif. Et enfin, j'ai relevé une phrase que Laetitia a dite quand on a parlé d'écoféminisme, que je trouve aussi assez intéressante. C'est le fait de par rapport au principe de l'écoféminisme, c'est de se servir d'une cause pour faire avancer l'autre. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que nous, avec Hélène, qui travaillons via ce podcast sur l'écoféminisme, on a vu comme c'était compliqué de parler à la fois
dans un même sujet, du féminisme, du combat du féminisme et du combat de l'écologie. Ça peut être confus, ça peut être parfois complexe, etc. pour les gens. Et de se servir d'une cause pour faire entrer subtilement l'autre cause. Et voilà, je trouve que c'est très fin et très judicieux. Donc, à réfléchir pour la suite.
Alors, je te rejoins complètement sur l'intérêt de l'écoféminisme et donc de cette convergence des luttes entre le combat donc, pour l'écologie et le combat pour l'égalité homme-femme à travers le féminisme. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'arriver à faire avancer deux causes en parallèle et l'une pouvant servir l'autre. Et aussi, ce qui est très juste, c'est qu'elle elle signale qu'une société féministe et écologique, finalement, servira à toutes et tous, pas qu'aux femmes. C'est une société plus égalitaire et une société plus durable fera du bien à la fois aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux jeunes, aux vieux, etc. Donc c'est intéressant aussi de le voir comme ça parce que je crois que c'est vraiment ça l'intérêt de l'écoféminisme et son objectif en fait. Voilà. Après, en parlant d'écoféminisme, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était quand même cette nuance aussi, enfin en tout cas ce point de vigilance qu'elle soulevait, en tout cas pour son cas personnel, face à cette charge environnementale qui peut venir s'ajouter sur aux injonctions qu'on fait déjà aux femmes. Et elle citait du coup le cas des femmes allemandes où effectivement c'est quand même un peu compliqué d'être complètement ok avec ce qui se passe dans cette société-là par rapport à ce qu'on attend des femmes. Et en même temps c'est une société hyper écolo. Donc bon, attention à ça quand même. Et sinon, pour le cœur du sujet, donc la productivité, moi ce qui m'a marqué, c'est de constater que au départ, la productivité est intéressante puisque l'idée c'est de faire plus avec moins, donc potentiellement produire en utilisant moins de ressources, en travaillant moins également, ce qui est hyper intéressant. Sauf qu'avec cette course à l'innovation et au fait de produire toujours plus, finalement ça perd tout son sens parce que on exploite les humains, on exploite les ressources pour toujours produire plus quoi. Et ça perd un peu de son sens et la productivité devient un objectif plutôt que d'être un moyen. Donc c'est là où c'est un peu critique. Et l'autre chose, c'est de constater effectivement que la productivité est aujourd'hui encore un indicateur qui est utilisé partout, pour tout, même dans la vie personnelle, mais en tout cas pour ce qui est de l'économie et du travail, c'est un indicateur qui ne semble plus à propos. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein d'indicateurs divers et variés qui ont été proposés comme alternatives pour mesurer le travail et l'économie, et ça ne prend pas, parce qu'effectivement, comme tu le disais, les personnes au pouvoir, et donc majoritairement des hommes blancs, n'ont pas intérêt à ce que les choses changent, puisqu'ils perdraient leur position de force. Donc c'est intéressant de voir comment on peut avancer sur ces sujets-là et proposer peut-être d'autres choses, d'autres alternatives, mais ça semble être loin d'être abouti et un combat encore à mener.
Merci d'avoir écouté Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail.
Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de le soutenir et de le partager est de suivre Néo Travail sur LinkedIn.
Tu peux aussi nous laisser un avis et noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
À bientôt.